ces indicateurs économiques, ils sont très récents. Hein. Le chômage, on l'a appris ce matin, il est remonté à plus 0,8%. Oh. Pour en donner un autre,
c'est bizarre.
Les ventes de logements neufs sont à un plus bas niveau historique. Et ce n'est pas tout hein, quand on regarde.
Oui, alors l'inflation par exemple, confirmée à 2,2% ce matin, le chômage, je en parlais, il est au plus haut depuis 5 ans. Hein. Donc en fait, on était sur un bilan, notamment sur la baisse du chômage,
mais qui
était plutôt positif pour Emmanuel Macron. Et c'est vrai que malheureusement, il va finir son deuxième quinquennat avec un chômage plus haut qui remonte. Donc ça va être compliqué. L'inflation, c'est quand même lié à ce qui se passe à Hormuz et cette guerre au Moyen-Orient. Donc ça, on peut imaginer que c'est conjoncturel et que ça pourrait rebaisser si la guerre s'arrête. Sur l'immobilier, on en a souvent parlé ici, c'est quand même l'un des plus grands échecs sans doute de la période Macron, c'est-à-dire que l'immobilier s'est effondré.
Foncière ISF
avec des choix DPE, taxe foncière, etc. Enfin, il y a eu une série de choix qui ont, on va dire, plombé totalement ce secteur. Donc, c'est vrai que Emmanuel Macron, qui pouvait encore se targuer d'avoir des bons résultats économiques, va peut-être quitter l'Élysée en n'ayant aucun résultat.
Mais là, il peut pas. Enfin, c'est la seule chose qu'il avait pour se raccrocher, c'était justement le chômage. Et c'est pas fini. Là, je suis allée regarder l'indicateur. J'aime bien regarder cet indicateur-là, l'indicateur de l'INSEE du climat des affaires. C'est un peu, si vous voulez, le thermomètre des corps humains et pour les affaires. Donc, en janvier, on était à 97. Alors, 100, c'est la normale. 97, c'est à peu près un 37,5. On commence à être.
Oui, voilà.
Bon, bah là, ça y est, on est à 38,5. On est à 94 et ils annoncent minimum 2 points. De perte encore. Là, c'était à avril et là, ils annoncent encore 2 points de perte pour mai. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, je suis d'accord avec toi, le détroit d'Hormuz, la guerre fait qu'il y a une inflation. Mais comment elle a été gérée? On a encore une baisse là, donc on a eu 300 millions en plus de surcoût de la dette du fait de l'instabilité et de l'instabilité gouvernementale de notre pays. Donc c'est-à-dire que tout le monde a peur de nous et de ce qu'on est capable de faire.
La dissolution est une responsabilité présidentielle.
Exactement. On en est là aussi pour...
C'est pas Donald Trump.
Exactement. Donc il faut arrêter de tout mettre sur le dos de la guerre en Iran. À un moment donné, je le répète, là on en est à moins 170 millions de taxes, enfin de rentrées financières. Au final, le bilan par rapport au carburant. Il me semble quand même que au final, tout le monde est lésé. C'est-à-dire que les gens ne consomment plus et le gouvernement n'a plus de rentrée d'argent. Donc, on en est exactement au point que j'avais énoncé dès le départ. Il me semble que si Monsieur Lecornu avait enlevé quelques taxes ou diminué quelques taxes sur le carburant, les gens auraient pu continuer de consommer, non pas du carburant, mais de consommer tout court, et qu'il y aurait eu des retraites fiscales. Au final, qu'est-ce qu'on constate? Que les gens, là, pour un week-end de 5 jours qui va arriver, si on pose son vendredi, les gens ne vont pas partir.
Ouais, ça va pas beaucoup.
Les gens ne vont pas consommer. Les gens ne vont même pas aller au cinéma. Dans des parcs d'attractions, les gens vont rester chez eux. Donc il est en train, enfin, avec ce côté statique de ne surtout pas bouger et d'attendre que la catastrophe passe, c'est eux qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Faut arrêter de remettre la faute sur l'Ukraine, le Covid, le ci, le là, le détroit d'Hormuz.
Sachant qu'ils ne peuvent pas bouger puisque jusqu'à l'année prochaine, on aura cette assemblée sans majorité, donc on sait qu'il ne va rien se passer.
Donc à un moment donné, la dette qui enfin les intérêts de la dette qui explosent, c'est de leur faute. Le logement qui explose, c'est de leur faute. Le fait que le chômage explose, c'est de leur faute. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent un mea culpa.
Mourad, est-ce que tu es un pessimiste pour la situation économique de la France dans les mois qui viennent?
Je suis pessimiste et réaliste. On ne peut être que pessimiste par les choix qui ont été faits et qui seront faits demain. Aujourd'hui, on a un gouvernement dont la priorité est le budget de l'État, avant le budget des Français. C'est-à-dire qu'il y a des gabegies incroyables dans le budget de l'État. Il y a des conneries qu'on pourrait éliminer. Et aujourd'hui, l'État... Comme il fait passer son budget en priorité, il crée de la taxe. Il crée de la taxe parce que son budget est prioritaire. Malgré toutes les conneries qu'il y a dans ce budget, on donne le budget de l'État à 10 contrôleurs de gestion du privé, ça sera vite réglé. Voilà, ils n'auront pas fait l'ENA, mais ça sera très vite réglé. La priorité aujourd'hui, c'est le bien-être des Français, c'est le budget des Français. Je l'ai dit et je le répète, quand les Français vont bien, dans leur pouvoir d'achat, le budget de l'État va bien, puisque les Français créent des richesses. Ils prennent le problème à l'envers, en priorisant le budget de l'État avant le bien-être des Français. Il faut avoir quelqu'un qui a les coronets de modifier notre système. Un, c'est faire un grand emprunt d'État pour que la dette que nous avons avec des intérêts, je rappelle quand même que les intérêts, c'est depuis 93, hein, qu'avant on empruntait à zéro et que bon.
Oui, puis là, depuis 2025,
on a décidé que les États devaient payer des intérêts sur leurs emprunts, alors que c'était pour le bien-être des gens. Bon. un grand emprunt d'État pour que la dette soit auprès des Français, pour que les intérêts de la dette soient versés aux Français, plutôt qu'à des fonds de pension en Floride ou des fonds de pension on ne sait pas où. Ça serait une première chose, de façon à donner du pouvoir d'achat aux Français à travers la dette. La deuxième chose, c'est défiscaliser le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut encourager les entreprises à créer de l'emploi. Comment on va les encourager? C'est en transférant le coût du travail sur le coût de, sur de la TVA, sur la consommation, en transférant les charges du chômage sur de la création, sur de la création d'emplois. Il y a un véritable courage à avoir faire pour relancer l'économie. Et si on relance par la croissance, par l'investissement, par la croyance dans les Français, on va réduire le chômage, on va augmenter les bénéfices des entreprises, on va recréer de nouvelles recettes fiscales qui vont faire en sorte que le pays ira mieux. Mais c'est un grand bouleversement qu'il faut prendre, et je répète et je redis, intégrer une bonne fois pour toutes qu'il est plus agréable de payer des impôts en consommant qu'en travaillant. Et c'est le système français qu'il faut revoir.
Puisque tu parlais de la dette française, je regardais justement. La dette française est détenue à 52% par les investisseurs étrangers, à 48% par les investisseurs français.
Mais banque, dans lequel il y a aussi des boîtes étrangères qui sont minoritaires.
Banque, assurance, et même les particuliers à 2-3% via
Oui, 2-3%.
Charles. Les causes de notre marasme, on les connaît maintenant. C'est la pression fiscale excessive, les dépenses publiques excessives, qui décourage le travail, qui décourage l'entreprise et qui font émigrer beaucoup de gens à l'étranger. Voilà. Donc ça, on les connaît. Il y a d'autres grandes causes qui, pour le coup, sont plus au niveau européen, qui sont grosso modo contenues dans le fameux rapport Draghi que toutes les élites d'Europe ont lu et qui, en gros, pointent nos difficultés industrielles et le fait que... il s'agirait maintenant de se positionner sur les secteurs d'avenir très stratégiques, comme les fameux semi-conducteurs. Personne n'y comprend vraiment rien, mais enfin, en gros, c'est un machin indispensable pour fabriquer tout l'informatique du monde, que ce soit dans les avions ou dans les iPhones. Il y a certains domaines comme ça sur lesquels l'Europe peut se positionner, peut avoir un avantage sur ses rivaux chinois et américains, en gros. Donc, tout ça, on le sait, en fait. Je ne sais plus qui disait... qu'au fond, même à l'échelle individuelle, on sait ce qu'il faut faire. Ce qui est emmerdant, c'est de le faire. Au fond de nous, on sait ce qu'il faut faire pour notre bien-être personnel, pour notre beurre. Ce qui est emmerdant, c'est de le faire. Bon. Je pense qu'on est un peu comme ça en France, avec un monde politique qui est de plus en plus débranché de la réalité du pays, qui vit en autarcie. Donc là, on voit bien avec ce budget le cornu, écrit par les socialistes, etc. On est vraiment dans un truc qui est très très loin de la France. Et vraisemblablement, rien ne va se passer avant le mois d'avril prochain. Il faut être lucide.
Peut-être après, même
avant l'élection.
Et résultat, il y a un manque d'entraînement. La France étant un pays très politique, où l'État prend beaucoup de place, etc., il y a une espèce de manque d'entraînement parce que on attend de voir. Voilà, on est dans une situation où on attend de voir. Moi, j'ai aucun espoir que rien ne décolle avant le mois d'avril prochain.
Olivier, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Salut technicien. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une crise sans précédent, là, avec les indicateurs qu'on vient de donner, dites-moi?
Ah mais totalement, et d'ailleurs je suis pas le seul à le penser, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un sondage Ipsos qui est sorti, il y a 91% des Français qui sont pessimistes sur l'avenir économique du pays. C'est juste incroyable. En fait, de tous les chiffres, moi j'aime bien regarder les chiffres, vous savez, mais les chiffres Banque de France, au moins on sait que c'est des vrais chiffres, et puis les différents indicateurs comme ça. On a des faillites d'entreprises, on a plus de 70 000 faillites d'entreprises sur les derniers mois.
C'est un massacre.
Alors, on nous dit que on fait un appel d'air, on provoque de la consommation, on tue nos entreprises. Il y a même, je crois, c'est 68 ETI, des entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, pareil, qui sont en faillite. Alors après, Macron essaie de nous envoyer de la poudre aux yeux avec on a créé des millions d'entreprises. Non, en fait, ce qu'ils ont créé, c'est 96%, et les chiffres, c'est tout est détaillé, c'est des sources sûres, c'est des micro-entreprises. Donc, il n'y a pas d'employé ou un employé. Ouais,
c'est un auto-entrepreneur, quoi, tout seul. Mmh. Ouais,
Et encore, ils se sont occupés de les fiscaliser après.
Oui, tous les micro-entrepreneurs que je connais, et je connais pas mal d'autres entrepreneurs, sont tous en train de pleurer par rapport à l'URSSAF, par rapport à tous les prélèvements qu'ils ont, et surtout après, par rapport au fait que s'ils arrêtent leur activité, ils ont une main devant et une main derrière.
Vous êtes dans quel secteur d'activité, vous, Olivier?
Pardon?
Vous êtes dans quel secteur d'activité?
Moi, je suis fonctionnaire. Donc, je suis tout à fait conscient pour dire que moi, je sais que je ne crée pas de richesse. Je suis une charge pour l'État et pour les Français. Par contre, je sais que c'est les entreprises qu'il faut absolument défendre parce que c'est eux qui créent la richesse du pays. Donc, vous voyez, d'un point de vue économique.
Oui, mais voyez, Olivier, le problème, c'est que là, monsieur Lecornu est en train de préparer le prochain budget qui sera le dernier budget Macron. Et ils sont déjà en train d'imaginer qu'ils vont raboter l'exonération sociale parce qu'il faut trouver l'argent. Hein, c'est toujours pareil. Oui. Donc, le MEDEF hurle en disant, bah non, le coût du travail
va coûter plus cher. Et les agents
d'État, ils veulent pas. Exactement l'inverse. Il sera bien sûr dans l'impossibilité de baisser les impôts de production parce qu'on n'a plus d'argent. On va même sans doute encore inventer de nouvelles taxes. Donc les mois qui viennent, à mon avis, me semblent particulièrement tendus pour les chefs d'entreprise.
Vous savez, Olivier, il y a deux façons de créer de l'impôt, en fait. Il y a soit créer une nouvelle taxe, soit supprimer une aide. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut.
Soit créer des richesses aussi, hein.
Il y a des richesses, je suis d'accord avec vous, mais en fait, là, ce qu'ils comprennent pas et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre depuis le départ, c'est qu'en baissant la fiscalité, que ce soit pour les entreprises, pour les particuliers, ils vont recréer de la consommation qui fera rentrer.
C'est ce que Macron a fait au début. C'est ce que Macron a fait au début.
C'est plus ce qu'il fait aujourd'hui. Mais la vraie boucle vertueuse, elle est là, c'est diminuer les taxes, diminuer les dépenses de l'État. Tout le monde n'arrête pas de le dire. Et en tout cas, ceux qui sont en place ne le font absolument pas. Au contraire, regardez le budget fonctionnement de l'État. C'est la plus grosse partie. Parce que ce qui coûte de l'argent, vraiment, notamment...
C'est le fonctionnement de l'État.
C'est le budget fonctionnement et au niveau des dépenses sociales, c'est les retraites des fonctionnaires. Parce que le budget, en fait, des retraites des particuliers, il a l'équilibre. Le système, on peut dire ce qu'on veut. C'est le système des fonctionnaires qui coûte de l'argent. Vous voyez, je prêche pas pour ma paroisse.
Mais
faut être réaliste. Voilà, faut être réaliste.
On a plus de 100 milliards sur des agences d'État dont on pourrait très bien se priver.
Olivier.
Et ça ne changerait pas la vie.
Olivier, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Un mot sur l'immobilier. Tout ce qui se passe sur l'immobilier, c'est voulu. Aujourd'hui, on a fait en sorte que la rentabilité sur l'immobilier soit inférieure à la rentabilité en bourse. On a voulu faire un transfert. Alors, je ne sais pas si c'est téléguidé par des grandes forces au-dessus de nous, mais jusqu'à un certain moment, une certaine époque, la pierre rapportait plus que la bourse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a tellement taxé l'immobilier, donc on a voulu transférer les investissements des Français. Et en bourse. Et en bourse, c'est qui? C'est les grandes entreprises du CAC 40.
Chômage, immobilier, inflation. Merci Macron. On va voir, est-ce qu'on tape dans les 100%? On est à 90%.
On est pas mal.
On est pas mal, effectivement. Allez, dans un instant, on va regarder ce qui se passe du côté de Raphaël Glucksmann avec une note confidentielle sur l'électorat qu'il doit viser. Est-ce qu'on doit vraiment crier au scandale politique? Vous venez en parler avec nous au 32-16, il est 11h-20.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Là, j'ai 3-4 réactions qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, notamment sur notre WhatsApp. C'est Dominique qui lui dit, écoutez, moi j'ai quand même une bonne nouvelle. Le camping où je travaille est complet pour ce week-end. Donc ça, c'est une bonne chose. On a Corinne qui dit, on passe notre temps à nous dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Par contre, là, on a le président de la République qui est en Afrique et on a 14 milliards pour le Kenya. On a Louis qui s'insurge aussi en disant il est temps de relancer le pays, sinon on court à la cata nationale. Voilà pour quelques réactions.